18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Philippe Jarowski, bonsoir.
Bonsoir Olivier Bellamy.
C'est un Passion Classique un peu exceptionnel, ce n'est pas le best-of du samedi, mais c'est Philippe Jarowski, invité exceptionnel, parce que c'est la Nuit de la Voix dans laquelle vous serez lundi prochain au Trianon. Très belle salle. Avez-vous déjà chanté au Trianon à Paris?
Non, jamais. Jamais. Donc voilà, on a encore des petits réglages à faire. On commence les répétitions. Il y aura, c'est un programme avec évidemment beaucoup de surprises. Il y aura beaucoup de mes amis musiciens, Julien Chauvin à l'Orchestre de la Loge, Karina Gauvin, Marie-Nicole Lemieux, Rosemary Stanley aussi. On fera un duo ensemble. Donc il y aura du classique, mais pas que du classique. Donc il faudra aussi travailler aussi sur la sonorisation du concert, la spatialisation. Donc ça va être une belle aventure.
Et ce sera présenté par André Manoukian, qui sera l'invité de Passion Classique lundi. Et la Nuit de la Voix de la Fondation Orange sera diffusée en direct sur Radio Classique lundi prochain. Le 12 et le 14 mars, vous serez au Château de Versailles pour un récital.
Exactement, pour faire en partie le programme de mon nouveau disque consacré au mythe d'Orphée. Je serai accompagné de Diego Fasolis et de Amanda Forsyth, la soprano américaine, et on fera une première partie autour des premiers Orphées, donc c'est-à-dire Rossi, Monteverdi, et une deuxième partie autour de l'Orphée de Gluck.
Et bien justement, puisque vous en parlez, le voici, vous voilà.
l'inferno non già
de l'Orfeo de Monteverdi, et l'album s'appelle La Storia de Orfeo, et c'est votre album. Pourquoi s'intéresser tout d'un coup à Orphée, qui est quand même le dieu des musiciens, mais pourquoi maintenant Philippe Jarouski?
Alors, ça correspond peut-être à une forme d'aboutissement sur une certaine recherche aussi esthétique, c'est-à-dire que j'essaye toujours finalement au final de simplifier un peu le mode d'expression qui parfois je trouvais peut-être exagérément opératique ou parfois un peu caricatural dans ce qu'on peut proposer. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant dans le mythe d'Orphée, justement, c'est cette magie, cette grâce qu'a le personnage d'Orphée. Il est le symbole effectivement du pouvoir magique que peut avoir la musique finalement sur les êtres humains et même sur les dieux. Et au final, on se rend compte aussi que ça évidemment inspiré des pages assez révolutionnaires même, justement. Le mythe d'Orphée a permis au moins deux fois dans l'histoire de la musique, avec Monteverdi, avec Gluck, de dire non, on veut une autre esthétique, on veut une autre forme d'expression musicale. Et c'est le cas effectivement pour Monteverdi et Gluck. Et ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de refaire un album autour du Seicento italien, qui, on peut dire, fait partie un peu de mes premières amours, que j'ai beaucoup chanté avec Christina Pluart, avec Jean Tuberi, avec Jean-Claude Malgoire, notamment Monteverdi.
Qu'est-ce que ça a de particulier pour vous, le premier baroque italien?
Le premier baroque, d'abord, c'est quelque chose de... Il y a un feeling qu'on a, ou je trouve, ou qu'on n'a pas avec cette musique. J'ai beaucoup écouté de chanteurs. Pour chanter Cavalli, Monteverdi, bien sûr, il faut apprendre. Mais il y a un feeling intrinsèque à la voix, effectivement. Notamment dans ce répertoire du premier baroque, là, on a peut-être tendance à avoir un vibrato un peu moins large et à être plus proche d'une diction, proche du parler,
ouais,
aussi. Et effectivement, il y a toujours eu une attirance pour ce répertoire. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas consacré un disque à cette période.
Ce qui est très très beau, c'est vrai, alors parce qu'après ça va se compliquer... Mais là, ce qui est très beau, c'est que le théâtre et la musique sont à égalité. C'est
exactement
la fusion parfaite.
Les formes ne sont pas figées du tout. Là, un air comme le Possente Spirto, alors il y a un petit peu entre guillemets de la provoque dans ce disque, puisque je pense être le premier contre-ténor à enregistrer des larges extraits de l'Orphée de Monteverdi, qui est écrit pour un baryto-ténor, on pourrait dire.
Vous allez vous prendre une volée de bois vert.
Non, mais en tout cas, effectivement, l'idée, c'était de proposer peut-être une version différente. On pourrait très bien penser que Monteverdi, s'il a vu un castra qui l'avait particulièrement inspiré, il aurait peut-être créé ce rôle pour lui. Donc, voilà. Et donc, le réunir avec deux autres Orphées de Rossi et de Sartorio, qui, eux, ont été écrits pour des castras, et notamment l'Orphée de Rossi qui a été créé à Paris par le fameux castra Ato Melani. Donc voilà, et l'idée aussi, c'était, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de disques finalement consacrés au mythe d'Orphée, mais souvent il manque un petit peu la présence d'Eurydice, et c'est vrai que c'est très difficile finalement de raconter l'histoire d'Orphée sans Eurydice,
alors
évidemment.
Là, vous avez retrouvé votre Eurydice.
Et une très belle Eurydice, une Eurydice que j'avais rencontrée pendant un Stabat Mater de Pergolès, dirigé par Nathalie Stutzmann, et Imeke Barat, donc la soprano Imeke Barat, qui je trouve, justement, on en parlait tout à l'heure, a le feeling avec cette musique, et j'avais entendu des extraits de son Elena de Cavalli qu'elle avait chanté sous la direction de Garcia Alarcón au Festival d'Aix-en-Provence. Et voilà, elle a, je trouve, la vocalité parfaite pour ce répertoire.
C'est un mythe qui vous fascine aussi, cette histoire d'Orphée qui va aux enfers, qui ne doit pas se retourner, qui se retourne. Et...
Oui, je trouve que ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que on voit d'abord que les compositeurs se dépassent, essayent de trouver effectivement cette magie à travers la musique. Et le Possente Spirito de Monteverdi est un air unique. Pour cela. Et puis moi, effectivement, je pense que ça m'inspire parce que j'essaye de trouver quelque chose qui est justement différent. Et c'est ça qui est très intéressant d'aborder le personnage d'Orphée. Orphée est quelqu'un de différent. Et il chante pas comme les autres chanteurs. Il doit avoir une couleur très, très particulière. Peut-être un peu irréel. En tout cas, c'est l'image que je m'en fais, et c'est l'image que peut nous apporter aussi l'œuvre que créera un siècle plus tard Gluck, c'est-à-dire un personnage qui va au-delà des affects bassement humains, on va dire. On a une élévation, une sorte d'auteur de vue que je trouve est très inspirante pour un chanteur.
Vous vous approchez la quarantaine, Philippe Jaroussky, vous vous sentez...
Dangereusement, oui.
Vous vous sentez comme ça au midi de votre carrière, au zénith, c'est-à-dire en possession de tous vos moyens et...
Oui, disons qu'effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il y a une certaine boulimie d'enregistrement ces dernières années, parce que on ne sait jamais combien dure ce zénith d'une voix, on va dire... Moi, c'est vrai que j'avais une voix très très petite au départ, très claire, très facile. Il m'a fallu, on va dire, plus d'une dizaine d'années pour finalement atteindre une forme de maturité vocale dans la projection, dans l'amplitude, pouvoir finalement faire des concerts dans des grandes salles avec un certain confort. Et c'est vrai que maintenant, il y a aussi peut-être une forme de maturité musicale par rapport à ce que j'ai vraiment envie de faire et vraiment envie d'exprimer avec la voix. Donc j'en profite. Et puis aussi des collaborations avec des chefs, notamment c'est le cas avec Diego Fasolis, que j'avais envie de re-rencontrer dans un disque. Et puis voilà, une forme de sérénité peut-être aussi. Et puis de toujours essayer peut-être aussi de proposer des programmes différents. L'année dernière, ça avait été mon premier album en allemand avec des cantates de Bach et Telemann. Là, c'est un retour un peu aux sources. Et voilà, essayer toujours peut-être de surprendre un peu et de proposer des choses différentes.
Mais votre voix, Philippe Jaroussky, s'élargit, s'arrondit et en même temps, elle garde sa pureté. C'est ça qui est impressionnant parce que quelquefois, quand on gagne, on perd.
Oui, oui, oui. Alors c'est pour ça que le travail a été très patient, parce que quand vous avez une voix qui à la base n'est pas très grande, si vous voulez chanter tout de suite beaucoup plus fort, vous pouvez vous abîmer très vite. Donc c'est vraiment un travail très patient. Et puis ce qui est fascinant dans le travail de la voix, c'est qu'elle change, on pourrait dire pratiquement tous les 6 mois, la voix, en fonction des idées qu'on peut avoir, mais aussi du corps, de tas de choses. Et c'est vrai que c'est assez fascinant, c'est une introspection permanente, la voix, et on découvre encore des choses. Là encore hier, j'étais en enregistrement et je me suis surpris dans un état en tout cas énergétique qui n'était pas le bon, et il a fallu que je reprenne en une minute une façon de penser totalement différente qui a fait que la prise d'après était la bonne. Donc en fait, c'est une lutte permanente finalement. On lutte contre ses propres démons en permanence.
Philippe Jaroussky, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la séquence de vos petites madeleines musicales.
Vous faites partie d'un trio piano, violon, violoncelle? Vous êtes pianiste, altiste ou violoncelliste? Participez au 2e concours Giorgio Cambissa. Les 13 et 14 mai, les finalistes, puis les lauréats, seront accompagnés par l'orchestre Belle Arte de Richard Boudaram, sous la direction du maestro Massimiliano Doninelli, à l'auditorium du conservatoire de Clichy-la-Garenne. Inscrivez-vous dès maintenant au concours international Giorgio Cambissa au 09 50 51 42 23. Et le 12 mai, concert d'inauguration avec les lauréats 2016 et la création du concerto pour orchestre numéro 4 de Giorgio Cambissa.
Fabrice Di Falco, Les Sauvages. Découvrez la voix magique de ce Farinelli créole. Accompagné de son quartet, Fabrice Di Falco nous offre une fusion extraordinaire entre les plus beaux airs baroques et le meilleur du jazz. Les Sauvages, le nouvel album de Fabrice Di Falco.
Maman, j'ai une amie dont la mère commence à avoir des soucis de santé. Elle perd son autonomie et financièrement, c'est pas simple. Moi, je sais pas comment je ferai.
Où veux-tu en venir ?
Nulle part.
Mais moi, ça peut pas m'arriver. T'inquiète pas, ma chérie. J'ai souscrit une garantie dépendance chez Harmonie Mutuelle.
Oh, tu penses à tout, maman.
Chez Harmonie Mutuelle, notre garantie dépendance vous permet de ne pas être financièrement à la charge de vos proches en cas de perte d'autonomie. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France.
En voiture, au bureau, à la maison, écoutez Radio Classique tout au long de la journée.
Vous êtes bien sur Radio Classique.
Ça va pas être possible entre nous, et tu le sais bien. J'ai 45%, je pourrais être ta mère.
Oui, enfin, j'ai quand même 38%.
Ah, 38%? Mais tu les fais pas.
Avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction. À 52 ans, c'est 52% de réduction sur votre monture. Et c'est jusqu'au 3 avril. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE.
Radio Classique présente Bel Canto, le nouvel enregistrement d'Antoine Tamestite et Cédric Tibernien. Bel Canto d'Antoine Tamestite rend hommage au répertoire pour alto inspiré par les charmes de l'opéra du 19e siècle. Une nouveauté, Harmonia Mundi, en écoute et à prix vert dans toutes les FNAC.
FNAC.
Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Philippe Jarouski, merci d'être là ce soir dans Passion Classique, à l'occasion de la sortie de ce magnifique album qui s'intitule La Storia di Orfeo, à l'occasion ensuite de la Nuit de la Voix, dont vous serez une des vedettes et qui sera diffusée sur Radio Classique lundi soir. Et à l'occasion aussi, tiens, au mois de mai, vous allez chanter à l'île Seguin, et vous avez monté une académie là-bas,
oui,
dans cette
alors ça,
nouvelle
c'est...
place musicale.
Oui, c'est, je l'ai visité il y a quelques semaines. C'est un lieu qui va être magnifique. L'auditorium est splendide. Il y a plein de possibilités. Je vais donc intégrer ce nouveau lieu avec Laurence Equilbet, Insula Orchestra et la maîtrise des Hauts-de-Seine. Et ça faisait quelques années que j'avais envie de, voilà, d'élaborer un projet un petit peu personnel, un peu différent, un peu plus social aussi, et voilà, de transmettre un peu, de commencer, en tout cas, ce travail de transmission, qui, je crois, risque de m'occuper, de plus en plus, en tout cas, dans le futur. Et donc, c'est une académie qui va s'axer sur deux choses, un apprentissage assez sur mesure, assez intensif pour de jeunes enfants, de jeunes apprentis entre 7 et 10 ans. Et puis, de l'autre côté, une fondation, on va dire, un petit peu plus classique qui aidera de jeunes talents entre 18 et 25 ans. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure pour moi. L'Académie ouvrira ses portes fin septembre de cette année. Et à cette occasion, on organise le 23 mai, avec beaucoup d'amis musiciens, les frères Lamarca, Karine Deshaies, Jérôme Ducrot, Geneviève Laurenceau. On organise un concert au profit donc de cette académie le 23 mai, donc à l'auditorium de cette nouvelle scène musicale.
À l'île Seguin. Philippe Jarouski, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première.
Thank you.
l'une des plus grandes Aïda de Verdi, c'est Léontine Price que vous avez choisie. Quelle voix !
Oui, c'était. Je voulais lui rendre hommage à l'occasion de ses 90 ans.
90 ans.
Je crois qu'elle a eu 90 ans il y a 2 semaines. Et c'est une voix que j'ai découverte finalement pas si jeune que ça. J'ai évidemment beaucoup écouté Callas au début. Et on va dire, ça fait une dizaine d'années que voilà, la voix de Léontine Price m'accompagne. Ce qui est frappant, c'est évidemment la pulpe, le fruité de cette voix absolument sublime. Et surtout ce côté aussi à la fois très léger, très pur et très intègre. J'aime beaucoup et c'est une de mes voix préférées.
Et celui qui chante avec elle, c'est Placido Domingo. C'est dans l'enregistrement dirigé par Eric Leinsdorf. D'ailleurs, c'est ressorti. Il y a eu tout un coffret avec plusieurs, avec Bal Masqué, avec Aïda, à un prix défiant toute concurrence. Les voix féminines peuvent vous influencer? Ça peut faire partie de vos référents, Philippe Jarouski?
Ah, ça fait partie, peut-être même mon référent principal, finalement. Bien entendu, j'écoute des voix de contre-ténor, de ténor, de baryton, mais j'écoute essentiellement, effectivement, des voix de mezzo, de soprano. Et je pense que pour un contre-ténor, c'est une source de travail et puis d'inspiration, parce que la voix de contre-ténor a quelque chose, on le sait, d'un peu irréel, d'un peu magique.
D'angélique.
Et puis, elle a de vraies qualités vocales aussi. Contrairement, d'ailleurs, peut-être même à certaines idées reçues, la plupart des contre-ténors ont un large souffle. Ils peuvent effectivement avoir cette capacité de chanter dans le piano avec une certaine aisance, une certaine beauté de couleur. À l'inverse, c'est vrai que peut-être il y a parfois moins de diversité de couleurs que chez une mezzo ou une soprano, voilà. Et c'est vrai que ça toujours m'inspire beaucoup d'essayer effectivement de rechercher des couleurs différentes dans ma voix et d'écouter donc du coup aussi ce que font d'autres voix.
Philippe Jarouski, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale. Baroque, hein, mais c'est le premier contre-ténor américain, je crois.
Exactement, et puis évidemment, on se rend compte que contre-ténor n'est pas forcément dans un style baroque, et là, c'est une grande voix, une voix assez lyrique. C'est souvent la voix que je donne à écouter pour essayer d'imaginer ce que pouvait être la voix d'un castrat alto, comme Senesino ou d'autres, parce que effectivement, on ne sait pas d'où vient cette voix. Lui-même l'expliquait en disant qu'il n'était pas contre-ténor, qu'il chantait en voix de poitrine, en voix de ténor allégé. Et on a ce timbre comme ça, du coup, qui est très profond, d'alto. Voilà, je voulais lui rendre hommage parce qu'il nous a malheureusement quittés l'année dernière, au mois de novembre. Et c'est une personne qui a compté beaucoup, je pense, pour l'histoire des contre-ténors et la découverte de cette voix.
Il avait été découvert par Leonard Bernstein. C'était vraiment une très très grande vedette. Et justement, à propos de chefs d'orchestre, est-ce qu'il y a des chefs d'orchestre, alors vivants ou morts, mais hors du baroque, Philippe Jarouski, avec lesquels vous auriez aimé travailler? Quelqu'un qui, que la vie ne vous aurait pas forcément conduit à travailler avec, mais...
Oui, alors dans les chefs qui n'ont pas fait que du baroque, mais qui ont également en ont fait beaucoup, peut-être un regret, c'est de ne jamais avoir eu la possibilité de travailler avec Nicolaus Harnoncourt, par exemple. J'aurais énormément aimé, parce que j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui a apporté énormément à l'esthétique, à cette façon de dire, la plupart du temps d'ailleurs, le texte du chanteur à l'orchestre. Je pense que là-dessus, il a été un des grands, grands pionniers.
Mais lui, vous auriez pu le rencontrer, alors que quelqu'un que vous n'auriez pas pu rencontrer, entre Karajan, Bernstein, Furtwängler, Toscanini...
Bernstein, sans hésiter, ouais. Bien sûr. Bernstein, sans hésiter, et je trouve que oui, c'était un des grands.
Et peut-être qu'il aurait même écrit un rôle.
Voilà,
vous.
Il m'aurait peut-être fait un air, un air aussi, aussi beau que Glitter and Big Gay pour un contre-ténor, pourquoi pas. Mais c'est aussi pour ça que j'essaye de temps en temps aussi d'aborder le répertoire contemporain. Parce que, bien entendu, en dehors du fait de créer de la musique, c'est aussi parfois évidemment la possibilité de travailler avec des chefs qui ne sont pas baroques et d'avoir aussi c'est assez confortable même parfois les fois où ça m'est arrivé de diriger ou de jouer avec un grand orchestre symphonique, c'est pas exactement le même travail, c'est-à-dire qu'on se laisse complètement finalement porter par la direction du chef. Et évidemment, si c'est un bon chef, il peut y avoir aussi quelque chose d'extrêmement réconfortant, on est complètement comme ça, on se laisse totalement diriger finalement, et ça peut avoir aussi quelque chose pour un chanteur de très agréable. Évidemment, dans la musique baroque, il y a une collaboration, je trouve, qui est très enrichissante entre un chef et un chanteur, parce qu'en général, je dirais pas qu'on co-dirige, mais on y a une collaboration qui est assez forte. Et c'est vrai que quand on se laisse diriger par cette autorité que doit avoir un chef moderne, ça peut être aussi très confortable.
Philippe Jarouski, voici maintenant votre troisième petite madeleine musicale.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, ne parle bien, l'autre se tait. Que je préfère, il n'a rien dit, mais s'il me plaît.
L'amour est un oiseau rebelle, Carmen à la Banera, Georges Bizet, Vous parliez de fruité et de pulpe. Là, c'est le même mot que vous pourriez utiliser pour Marie-Nicole Lemieux.
Oui, alors évidemment, c'est ma grande amie Marie-Nicole Lemieux. Pourquoi j'ai choisi Marie-Nicole dans Carmen, dans la Habanera? C'est que j'ai la chance de l'écouter en février dernier, à l'occasion de ses deux versions concerts. C'était sa première Carmen.
Au Théâtre des Champs-Élysées.
Exactement. Et j'avais pas entendu Marie-Nicole depuis très longtemps. On a tous les deux des agendas assez... assez rempli, et j'ai la possibilité de venir écouter une des deux représentations, et j'ai pleuré pendant 3 heures. Je l'ai trouvée en forme olympique, et chaque phrase était d'une justesse absolue dans l'intention dramatique, et voilà, je suis sûr que je n'en réentendrai pas une Carmen aussi intelligente et aussi raffinée avant longtemps.
Et elle est accompagnée par l'Orchestre National de France, dirigé par Fabien Gabel. L'amitié, la vraie amitié peut naître entre des artistes, des chanteurs, Philippe Jarouski.
Oui, d'ailleurs si j'étais aussi ému pour cette Carmen, c'est probablement parce que depuis qu'on se connaît avec Marie-Nicole, ça fait presque 15 ans, on parlait déjà de cette idée de Carmen à l'époque quand on s'est rencontrés à l'occasion de l'Orlando Furioso dirigé par Jean-Christophe Spinozzi au Théâtre des Champs-Élysées. Et voilà, effectivement, l'amitié entre chanteurs existe. Après, il y a différentes sortes d'amitié entre les musiciens. Évidemment, il peut y avoir une amitié, on va dire, entre guillemets, amicale, personnelle, humaine. C'est le cas avec Marie-Nicole, mais il y a aussi des amitiés musicales, purement musicales, et c'est aussi des
C'est-à-dire
moments très forts.
On se voit pas forcément
pour aller au resto ensemble.
Quand on chante ensemble, il y a quelque chose d'extraordinaire.
Voilà, il peut y aussi avoir des choses comme ça assez incroyables qui se passent. Et puis, en général, c'est assez aussi assez magique, parce que généralement quand on s'entend bien musicalement, on peut ne pas jouer ou chanter ensemble pendant 5 ans et se retrouver à l'occasion d'un concert et c'est reparti comme au début. Et voilà, et c'est l'amitié musicale aussi quelque chose d'assez magique. Moi par exemple, quand ça fait par exemple, à mon plus grand regret, 2 ans que j'ai pas joué par exemple avec le Quatuor Ébène ou avec les frères Capuçon, voilà. Mais quand on se revoit, à chaque fois aussi, il y a une forme de... C'est très festif, c'était très joyeux, et c'est des moments assez rares. Et c'est vrai que c'est très important, de temps en temps, en dehors des projets, on va dire, plus personnels, ou justement des sorties de disques, ou des choses comme ça, de faire des concerts où on se réunit aussi entre amis, musiciens, pour partager, repartager ensemble ces moments-là. Et finalement, ça nous nourrit pour le reste de l'année.
Et est-ce qu'une amitié est possible entre deux contre-ténors?
Ah, bien sûr,
entre deux concurrents.
Bien sûr, bien sûr.
Mais c'est-à-dire une vraie amitié sans jalousie professionnelle?
Non, jalousie. Non, je pense qu'effectivement, nous les contre-ténors, on se connaît pratiquement tous. Moi, je les ai pratiquement tous rencontrés, évidemment, que ce soit Valère, Max Emmanuel, Franco. Voilà. Après, on est aussi des artistes. On est des artistes. On a aussi nous chacun nos égos. On a des égos tous démesurés. On peut le dire. Et on se respecte énormément. On se donne des nouvelles. Et en même temps, on se surveille un peu. On regarde qui enregistre quoi, quand, à quelle date. C'est normal, d'ailleurs. C'est d'ailleurs une émulation que je trouve très, très positive.
Vous n'avez pas l'air d'avoir un ego démesuré. Ou alors, c'est très maîtrisé ou très caché. Mais en tout cas, vous n'avez pas l'air de marcher sur les pieds de tout le monde.
Non, mais l'ego, il est présent, il doit être là. Je pense que, de toute façon, toute personne qui monte sur scène et en face d'un public et qui dit « voilà, c'est comme ça que je chante et j'ai quelque chose à vous proposer que les autres n'ont pas », forcément, il faut un minimum d'ego. Après, il faut pas confondre l'ego qu'on peut avoir sur scène et l'ego dans la vie. C'est-à-dire que quand je vais aller faire mes courses au supermarché ou que je vais au restaurant, je suis comme tout le monde. Après, effectivement, quand je suis sur scène en costume avec mes musiciens, avec la lumière et avec un public qui a payé sa place, je ne suis pas comme les autres. Je suis placé dans une situation qui est différente et je dois effectivement montrer, donner quelque chose de spécial, de particulier. Donc effectivement, là, on doit cultiver son ego et être aller chercher au plus profond de soi-même ce qu'on a de finalement personnel à dire et à donner aux autres.
Mais est-ce qu'on peut avoir un instinct de tueur, un œil du tigre?
Il y a des chanteurs qui l'ont bien entendu, mais c'est pas forcément un instinct de tueur. Je trouve que parfois j'ai pu rencontrer certains chanteurs, notamment dans des productions d'opéra, qui finalement pensent trop à leurs propres prestations. Et souvent c'est parfois dommageable pour leurs propres prestations à eux, parce que finalement partager la scène avec d'autres chanteurs. En général, quand vous mettez en valeur votre collègue, vous vous mettez en valeur vous-même. Et effectivement, vous avez de temps en temps des collègues qui vous disent « pousse-toi parce que je suis pas dans la lumière » ou « mets-toi de telle façon que je puisse chanter face publique en permanence ». Et d'ailleurs,
ça me rappelle une anecdote. C'est Maria Callas qui a chanté avec Teresa Berganza une fois. Et Teresa Berganza n'osait pas saluer. Callas l'a retourné et l'a forcé à saluer, ben le public a applaudi Maria Callas pour son geste.
Oui, donc, parce qu'elle avait conscience de la qualité de Teresa et qu'elle voulait... Je crois que voilà, souvent d'ailleurs, c'est pas méchant de dire ça, mais les plus grands n'ont en général pas ce genre de comportement, évidemment. Et je crois que voilà, il faut... c'est souvent finalement plus à l'opéra qu'il peut y avoir... de temps en temps des petites tensions entre chanteurs, mais je crois aussi que c'est lié au travail même de l'opéra. C'est très intense. Quand on répète pendant un mois, parfois même des scènes où on est finalement très proche l'un des autres, on doit se toucher, on doit s'embrasser, on doit se taper, on doit se jeter à terre. Il faut quand même avoir un minimum de confiance en l'autre. Et effectivement, de temps en temps, il peut y avoir, évidemment, avec la fatigue venant, des petites tensions.
Vous avez choisi Les Nuits d'été de Berlioz par Anne-Sophie von Hutter. Vous avez chanté avec elle.
Oui, ça faisait partie des rêves de pouvoir partager la scène avec Anne-Sophie von Hutter, qui est évidemment une des chanteuses vivantes les plus intelligentes de l'opéra. J'ai choisi Les Nuits d'été aussi parce que, voilà, dans les challenges un peu fous, Les Nuits d'été sont au programme. J'ai déjà chanté Les Nuits d'été sous la direction de Nathalie Stutzmann et sous la direction de Jean-Claude Malgoire l'année dernière. Je le rechanterai en mai à la Philharmonie, la nouvelle Philharmonie de Hambourg, la Philharmonie sous la direction de Thomas Engelbrock. Et ça fait un peu partie des challenges un petit peu fous que je me suis lancé ces dernières années.
Spectre de la Rose, extrait des Nuits d'été d'Hector Berlioz par Anne-Sophie Fonnetter, qui est accompagnée par Marc Minkowski. Philippe Jaroski, ces Nuits d'été, vous les chantez, vous les enregistrerez peut-être un jour ?
Probablement pas, mais...
Ah bon ?
Non, c'est pas forcément... Tout n'est pas forcément à enregistrer, mais c'est vrai que ça fait des années que j'y pense. Évidemment, le travail sur un cycle de mélodies comme les Nuits d'été est un travail... de longue haleine, on décide pas du jour au lendemain de chanter en concert les Nuits d'été. Ça fait déjà plus d'un an que je les travaille. Ça fait beaucoup de bien à la voix de temps en temps d'aborder un répertoire finalement complètement différent et d'essayer justement de faire ce que j'aime beaucoup dans ce répertoire. Évidemment, on a ces grandes phrases très longues et très 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 charnues. Et voilà, ça me permet d'essayer d'aller trouver effectivement une façon de faire sonner la voix de manière encore plus plus large, plus intense. Donc c'est quand je reviens par exemple à Handel ou à Vivaldi, je sens que ça m'apporte aussi beaucoup.
C'est toujours un équilibre à garder, j'ai l'impression, quand on est chanteur, entre l'intelligibilité, c'est-à-dire la diction, et en même temps la beauté de la voix. Quelquefois les deux peuvent aller, si on privilégie le texte, la beauté de la voix est un peu sacrifiée, mais il faut essayer de faire, de conjuguer que les deux aillent ensemble. Ça va être un équilibre très difficile à trouver.
Et c'est ça finalement le point de maturité d'un artiste. D'ailleurs, pas forcément que les chanteurs, les acteurs aussi. Vous avez toujours ce phénomène un peu, surtout au théâtre, d'acteurs, de jeunes acteurs qui poussent un peu la voix et qui donc finalement perdent la justesse. Et à l'inverse, vous avez ces vieux acteurs de 70-80 ans qui vont murmurer une phrase dans une pièce de théâtre et que tout le monde va entendre parfaitement.
Jusqu'au poulailler. Là.
Voilà. Et finalement, le chanteur d'opéra, doit faire ce travail-là. Et il y a d'autres façons de faire sonner la voix. Et quand on n'a pas une grande voix, d'ailleurs, à la base, il faut se poser ces questions-là assez vite. C'est vital pour la santé vocale. Comment finalement projeter la voix, il faut que l'onde sonore soit la plus libre possible. Et cette onde qui est finalement moins brisée va aller loin. Et c'est vrai, c'est ce phénomène. Ça m'est arrivé des fois d'avoir des chanteurs, par exemple, qui couvrent beaucoup la voix et que vous entendez beaucoup à côté. C'est presque insupportable tellement vous les entendez fort à côté de vous. Et finalement, quand vous allez dans la salle, ils ne sonnent pas plus fort que les autres. Donc, ce travail de liberté du son.
Il faut avoir comme ça une sonorité presque de hautbois qui est très, très centrée et qui va très, très loin. Le Quatuor Eben, justement, m'avait fasciné une fois. Et pour trouver la puissance, pour aller très loin, il faut jouer le plus juste possible ensemble.
Oui. Et voilà, la fréquence résonne, les vibrations.
Voilà. Et il n'y a pas besoin de tirer, de forcer. Quand on est très juste.
Exactement. Et finalement, je pense que ce qui est très difficile, c'est au début, quand on est un jeune acteur ou un jeune chanteur, ou même un jeune instrumentiste, un jeune violoniste, un jeune pianiste, on veut sonner plus. On veut sonner, mais on veut sonner à l'extérieur de soi-même. Et finalement, on apprend avec les années à... Ce qui est important, c'est de sonner à l'intérieur de soi-même le plus possible. Et à ce moment-là, les choses se passent de manière beaucoup plus profonde d'abord, et le son est beaucoup plus riche, tout simplement, plus riche de sens, plus riche de vibrations, et ça, c'est un travail de longue haleine.
Philippe Jaroski, c'est le moment d'une autre page de publicité, et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
L'ensemble Zoroastre vous invite à redécouvrir deux chefs-d'œuvre incontournables du classique, le Gloria de Vivaldi et le Dixit Dominus de Handel. Un concert unique, dirigé par l'une des rares femmes chefs d'orchestre en France, Savitri de Rochefort. Vivaldi et Handel avec l'ensemble Zoroastre, dirigé par Savitri de Rochefort et la participation exceptionnelle du comédien Bruno Puzzulu, mardi 7 mars à 20h à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet, Paris 9e. Réservation au 01 53 05 19 19 et sur athénée-théâtre.
Martin, il a quel âge ton papa ?
55%.
Oh, la chance !
Et le tien ?
Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter ?
Jusqu'au 3 avril, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE.
Venez assister à une masterclass exceptionnelle et à un récital de Willem Lachoumia.
Samedi 18 mars, tout au long de la journée, le pianiste international prodiguera ses conseils de concertiste à 8 élèves de 3e cycle de conservatoire. Après la masterclass, Willem Lachoumia donnera un récital à 19h. La masterclass suivie d'un récital avec Willem Lachoumia, c'est le samedi 18 mars au studio Cyclone dans le 13e arrondissement de Paris. Réservation sur casio-musique.fr. Nombre de places limitées.
Vanessa Wagner, sublime sur pianos anciens et modernes, Mozart et Clementi. Raffinement et simplicité caractérisent cette expérience audacieuse. Mozart, Clementi par Vanessa Wagner. Une nouveauté, la Dolce Volta.
Je suis exotique, libre, créatif, impressionniste, pointilliste. La peinture est ma vie. En un mot, je suis Pissarro.
Venez découvrir le premier des impressionnistes, actuellement au musée Marmottan-Monet, à Paris. Avec Radio Classique.
Radio Classique.
18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Philippe Jaroussky, il y a des opéras prévus dans les saisons prochaines. Je crois que ça va repousser même votre année sabbatique que vous étiez prévu.
Oui, j'avais prévu de faire mon année sabbatique l'année de mes 40 ans, en 2018. Et donc, l'année sabbatique, je l'ai repoussée en 2019, de janvier à mai, à peu près. À l'occasion, effectivement, je vais faire mes débuts à l'Opéra de Paris.
Vos débuts ?
Exactement, oui. Je n'ai jamais fait aucune production à l'Opéra de Paris. Et curieusement, je vais le faire à l'Opéra Garnier, mais dans une pièce contemporaine, puisque ça sera la reprise d'un opéra que j'ai créé à Amsterdam l'année dernière, « Only the Sound Remains », de Kaya Saariao, avec une mise en scène de Peter Sellars. Des débuts bien surprenants. Finalement, on m'attendait peut-être dans le baroque, et ça sera une création contemporaine. Donc j'en suis ravi. Et puis, il y aura également deux autres opéras au Théâtre des Champs-Élysées à l'occasion de la même saison. Je crois que la saison n'a pas encore été annoncée, donc je laisse le suspense.
Mais ce sera baroque.
Et ça, ce coup-là, ça sera baroque. Donc il y aura finalement trois productions d'opéra de janvier à juin. En 2018, et donc l'année 2018 sera un peu plus opératique que d'habitude pour moi.
Et les années sabbatiques, pas de chant du tout, voyage, lecture, farniente.
Oui, en général, il y a les demi-années sabbatiques, les 6 mois que je vais prendre vont être à peu près divisés en deux. On va dire qu'il y aura 3-4 mois dédiés justement au voyage, au farniente, essayer de faire d'autres choses que ce que je fais en général. Mais entendu, on peut pas reprendre une activité vocale du jour au lendemain. L'idée, c'est un peu de remettre aussi les choses à plat. Donc il y aura évidemment 2 mois de travail avant le retour sur scène pour se refaire une santé vocale, une fraîcheur, comme peuvent le faire des sportifs également.
Vous avez choisi « Triste désert » de Charpentier par Henri Ledroit, ce haut-contre, puisque ce contre-ténor, enfin haut-contre plutôt parce qu'il chantait beaucoup de répertoire français, mais avec un timbre très très regretté puisqu'il n'est plus là, mais qui avait un timbre assez extraordinaire.
Je me souviens qu'on a déjà évoqué ici dans cette émission Henri Ledroit, c'est une voix qui a beaucoup compté pour moi, j'ai l'occasion de souvent dire que... Pour moi, c'est un peu la Maria Callas des contre-ténors. Il y a un sanglot, il y a une émotion dans la voix qui est une profondeur qui est assez unique. Et je viens d'apprendre qu'il y a un coffret, une réédition, je crois, de 7 albums qu'il avait enregistré chez Solstice. Et ce qui est très frappant aussi dans ces disques qu'il a pu faire il y a déjà plus de 20 ans, c'est l'originalité des programmes, des motets de Nivert, des pièces de Rossi, tout un disque dédié à Charpentier, et voilà, il y a des choses absolument magnifiques, et notamment ce triste désert qui je trouve montre bien cette émotion qu'il avait qui était absolument unique.
Triste désert de Charpentier par le regretté Henri Ledroit. Vous nous avez parlé de Kaya Sarayao tout à l'heure, Philippe Jarouski. C'est une mission pour vous, c'est difficile, c'est plus difficile de chanter une musique contemporaine ou c'est autre chose.
Disons que j'ai l'impression que la question se pose pour beaucoup de contre-ténors. On le voit d'ailleurs, le répertoire s'élargit. Franco vient d'enregistrer Rossini. Il chante aussi de plus en plus Mozart. Il y a de plus en plus de contre-ténors qui chantent des opéras de Mozart. Moi, ça a été un petit peu avant, là, beaucoup sur la mélodie française. La question se pose de plus en plus. Est-ce qu'on est prédestiné seulement à chanter du répertoire des castrats, le répertoire de baroque? Je pense, je suis de plus en plus convaincu que la réponse est non. Et je crois que une des choses les plus intéressantes à faire pour un contre-ténor, c'est justement de créer de la nouvelle musique spécialement écrite pour ces voix-là. Et cette collaboration avec Kaya a été un rêve, parce que ce qui est très intéressant quand on travaille avec un compositeur vivant, c'est qu'il a une vision de votre voix qui est peut-être totalement à l'opposé de ce que pouvez imaginer vous-même. Donc,
par exemple,
dans certaines couleurs, notamment dans la première partie, justement, Kaya me demande des choses plus sombres que qu'on pourrait imaginer. Et puis, il y a toute ce travail qui est très particulier dans cet opéra, puisque ma voix est traitée par ordinateur. Et il y a des effets de vibration, de scintillement dans l'aigu, dans le grave, qui finalement est une interprétation de ma voix. Et donc tout ce travail-là est aussi assez incroyable. Et puis c'est rentré dans un univers qui m'est complètement inconnu à la base. Quand j'étais instrumentiste, je m'intéressais un petit peu à la musique contemporaine, mais l'univers de Kaya est par exemple très différent d'un autre compositeur. Donc il faut quand même un certain temps pour maîtriser ce langage à elle aussi si particulier et aussi fascinant aussi. Et beaucoup de gens me disent mais qu'est-ce que vous changez quand vous finalement vous chantez du Kaya Sarriao à la place du Vivaldi? C'est très aussi difficile de savoir ce qu'on change. On est influencé par l'harmonie qui est totalement différente de d'habitude. Donc la voix s'adapte, fait des adaptations qu'on peut même pas finalement quantifier.
Vous vous surprenez vous-même?
Disons que la voix sonne différemment aussi par ce traitement acoustique et puis par des instruments, les percussions. Du coup, il y a beaucoup de flûte, notamment dans cette œuvre. Donc, du coup, on essaie de trouver parfois effectivement un son plus flûté, plus aérien. Et donc, c'est très intéressant et c'est une bouffée d'oxygène, je pense, pour moi également.
Est-ce que vous maîtrisez tout? Est-ce qu'il y a certains moments où vous dites « Mais comment j'ai pu produire ce son ?» Ou quand vous écoutez d'anciens enregistrements, vous dites « Mais comment j'ai pu faire ça ?» Est-ce que ça vous arrive? Ou alors, vous savez très bien comment ça a été pensé?
Oui, ce qui est très particulier dans les enregistrements, c'est que évidemment, on les écoute beaucoup en post-production, pour faire le montage, pour trouver la bonne balance, l'ordre même du programme. Des fois, on fait plusieurs ordres différents. On s'écoute beaucoup à ce moment-là. On a cette phase de s'écouter presque jusqu'à l'indigestion.
Narcissique, on pourrait
dire. Oui, mais finalement, dans un mode de travail. Donc finalement, on n'est pas trop... On essaye d'améliorer la chose. Et puis, on peut réécouter. Moi, je réécoute des enregistrements à moi, qui ont parfois 5-10 ans. On se rend compte que on cherche souvent cette note magique, comme vous dites, cette note qui fait « Ah, ça, c'est ce qu'on veut ». Mais finalement, dans un enregistrement, il faut être assez humble. Si j'ai, pour chaque enregistrement, 4 ou 5 notes de ce calibre-là, je suis déjà content. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie, évidemment, de refaire.
Ça, c'est magnifique. C'est ce que le pianiste Émile Guilels disait. Il dit, quand on a quelques mesures miraculeuses...
On peut être
pour
content,
un concert,
déjà.
On est content d'un concert.
Et c'est curieux, parce que des fois, ces notes-là se produisent peut-être plus souvent au concert. Quand on a la chance de pouvoir faire un programme, par exemple, un certain nombre de fois, il y a une forme de maturité qui se crée. Et souvent, le fait même d'avoir un micro en face de soi peut vous empêcher d'arriver à ce moment magique. Hein. Il y a un côté psychologique qui est parfois difficile en enregistrement, de passer cette frontière du micro et de se lâcher complètement.
Philippe Jarowski, merci.
Merci à vous.
D'être venu ce soir dans Passion Classique. Nous vous retrouverons sur antenne de Radio Classique dans la Nuit de la Voix de la Fondation Orange lundi soir. Et puis naturellement, dans ce disque magnifique qui vient de paraître, La Storia di Orfeo, et le 12 et 14 mars au Château de Versailles. Merci aux auditeurs qui ont adressé leur message à Philippe Jarowski pendant l'émission sur le site radioclassique.fr. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h pour une autre émission sur la Nuit de la Voix en compagnie d'André Manoukian. Tout de suite, vous retrouvez Alain Duhaut. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.